Studio Tamani, voici les informations en français.
Chers auditeurs, vous êtes sur Studio Tamani, il est 18h et c'est l'heure de votre journal. Tout d'abord, les titres. La tension persiste entre le Mali et l'Algérie. Les deux pays ont saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies. En attendant, le pôle anti-cybercriminalité ouvre une enquête sur l'abattage du drone de l'armée malienne à Tinzawatène. 84% des morts et événements violents au Sahel sont le fait du Jenin, le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda dirigé par Iyad Ag Ali. L'information est publiée dans le rapport du Centre d'études stratégiques de l'Afrique. La Guinée va interdire la transhumance des animaux en provenance du Mali sur son territoire à partir du 2 mai. Ce délai supplémentaire a été accordé suite à un compromis entre les autorités maliennes et guinéennes. Tout de suite, le développement de ce titre avec Idrissa Sakou et Sérou Daou est à la technique. Encore une fois, bonsoir et bienvenue sur Studio Tamani. Je le disais dans les titres, nouveau rebondissement dans la crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Les deux pays ont saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies. Au même moment, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, appelle à désamorcer la tension et à privilégier le dialogue. En attendant, l'armée malienne renforce sa présence dans la zone de Tinzawatène. Les détails avec Ousmane Yalibouli.
Le gouvernement du Mali condamne avec la dernière rigueur la destruction d'un drone de l'armée malienne sur le territoire du Mali suite à une action hostile préméditée du régime algérien, peut-on lire en substance dans le communiqué adressé au Conseil de sécurité par le représentant permanent du pays auprès de l'ONU. Au même moment, Alger aussi a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies en dénonçant des violations de son espace aérien par le Mali. Cependant, aucun des deux États n'a sollicité une réunion sur la question. Ce courrier n'appelle donc pas d'action spécifique du Conseil. Face à cette escalade de tensions, la CEDEAO appelle le Mali et l'Algérie au dialogue. Dans un communiqué diffusé mercredi 9 avril, l'organisation ouest-africaine exprime son inquiétude face à la dégradation des relations entre les deux pays. Elle les appelle à démorcer la tension et favoriser le dialogue pour régler leurs différends. Pendant ce temps, le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée annonce l'ouverture d'une enquête. Objectif, identifier et interpeller les présumés auteurs, co-auteurs et complices de la destruction d'un drone malien pour qu'ils répondent à leurs actes devant la justice.
Plusieurs options s'offrent au Conseil de sécurité de l'ONU pour résoudre cette crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie. C'est en tout cas ce qu'affirme Dr Hossein Ben Bamba, spécialiste en relations internationales. Selon lui, l'ONU pourrait envoyer une équipe d'investigation sur le terrain afin d'avoir d'autres preuves tangibles. Dr Hossein Ben Bamba est joint par Ousmane Yalibouli.
Alors premièrement, le Conseil de sécurité peut procéder à une évaluation de la situation. Il peut demander des rapports au secrétaire général de l'ONU et envoyer une mission d'observation ou une délégation afin de s'enquérir réellement des causes profondes de ce conflit-là qui ne devrait vraiment pas exister entre les deux pays voisins. Le Conseil de sécurité peut organiser des réunions ouvertes afin d'écouter, n'est-ce pas, les deux parties. C'est de comprendre les causes profondes et voir s'il y a une menace à la paix. Le Conseil de sécurité peut favoriser la médiation ou la négociation. Le Conseil peut appeler à la retenue et à inviter les parties à négocier directement à partir de leur mission diplomatique. Ils peuvent aussi mandater un médiateur ou un groupe de pays pour ne pas mettre fin définitivement à cette situation avant qu'elle ne s'avère.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Les éleveurs maliens ont jusqu'au 2 mai pour faire sortir leurs animaux en transhumance en Guinée. Ce nouveau délai a été accordé suite à un accord conclu entre les autorités des deux pays. Les autorités guinéennes avaient annoncé il y a quelques jours qu'elles interdiront l'entrée en Guinée des troupes maliennes à partir du 15 avril pour des raisons de sécurité. Les détails avec Oumar Waïgalou.
Suite à l'annonce de cette décision des autorités guinéennes, une délégation malienne s'était rendue sur place la semaine dernière. Mohamedou Doukouré, secrétaire général de l'interprofession filière bétail-viande, faisait partie de cette mission. Il revient sur les raisons qui motivent cette mesure d'interdiction prise par la Guinée.
Les animaux et les agriculteurs, souvent il y a des conflits d'intérêts où il va falloir vraiment qu'on réfléchisse beaucoup sur le protocole d'accord. Les Guinéens disent que les estimations qui rentrent en Guinée, ils trouvent souvent que c'est le triple souvent.
Le secrétaire général de l'interprofession filière bétail viande rassure que des dispositions sont en train d'être prises pour minimiser les conséquences de cette décision sur les animaux maliens. Parmi celles-ci, l'aménagement d'espaces pastoraux autour de la frontière Mali-Guinée.
Sur le retour des animaux, il est prévu de faire au moins 20 forages pour faciliter l'abreuvement des animaux. Et les dispositions sont en train de prendre aussi comment les accompagner en termes d'aliments bétail.
Il faut rappeler que cette mesure d'interdiction ne concerne pas les éleveurs maliens installés définitivement en Guinée.
Ici, au Mali, le directeur de publication du journal Le Canard de la Venise a été arrêté hier soir par le pôle anti-cybercriminalité. Alphacine Togo est accusé d'atteinte au crédit de la justice, trouble à l'ordre public et diffamation. En cause, un article publié dans la dernière parution du journal portant sur la justice. Toujours poursuivons avec ce journal, avec cet autre titre. Les violences contre les civils continuent au Sahel et les groupes armés sont responsables d'une grande partie de ces actes, selon un rapport du Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Le document indique que 84% des morts et événements violents au Sahel sont les faits du Jenin, le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda dirigé par Iyad Ag Ali. Les précisions avec Dramane Maïga.
Le rapport publié le 25 février 2025 indique qu'à l'instar du Burkina Faso et du Niger, le Mali subit des violences faites par les groupes armés terroristes. Selon le document, en août 2024, des combattants liés à la coalition Jnim ont abattu quelques 400 civils à l'extérieur de la ville de Barsalogo, province de San Mantenga, au Burkina Faso. Au Mali, le rapport souligne l'attaque de septembre 2024, perpétrée toujours par le Jnim contre des emprises de l'armée. Toujours selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, ces dernières années, le sud du Mali a aussi constaté une augmentation inquiétante des groupes armés. Ces violences, conclut le rapport, ont fait plus de 4 millions de personnes déplacées au Mali, Burkina Faso et au Niger.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Maintenant, nous allons ouvrir notre dossier de la semaine qui porte sur le prêt d'argent. Oui, tout commence par un simple service. Un ami ou un proche vous demande de l'argent, promet de rembourser rapidement et puis plus rien. Appel ignoré, excuses interminables et parfois même des disputes. Mais comment récupérer son argent? Aujourd'hui, nous parlons des pièges du prêt d'argent informel et des solutions pour éviter les mauvaises surprises. C'est avec Samuel Yatara.
Lorsqu'on prête de l'argent à un proche, on pense que la confiance suffit. Mais parfois, cette confiance est trahie. Promesses non tenues, excuses répétées et au final, aucun remboursement. C'est ce qu'ont vécu ces personnes rencontrées dans les rues de la capitale.
J'ai eu à prêter de l'argent à un frère pour me payer de la marchandise. Il a dépensé l'argent et m'a jamais remboursé. Il n'y avait aucune garantie parce que c'était un frère. J'ai quand même noté la somme. J'ai contacté son papa, sa maman et même les frères, mais rien.
Que j'ai eu à prêter l'argent à un membre de ma famille. Je n'ai même pas hésité. C'est lui-même qui m'a fixé un délai. Après, le délai est dépassé.
J'ai prêté 300 000 francs à mon cousin. Je n'ai pas demandé de preuve, mais il m'a promis de payer en un mois. Ça fait un an déjà. Maintenant, il m'évite. Quand j'insiste, il dit que je lui mets trop la pression.
Entre imprévus financiers et pression du remboursement, certains emprunteurs préfèrent éviter le sujet plutôt que d'affronter leurs créanciers. C'est le cas de cette dame qui a voulu garder l'anonymat.
C'était un dépendant de ma volonté. Je voudrais rembourser tout l'argent. Après, j'avais honte parce que les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'avais donné ma parole, mais ça n'a pas été le cas.
Prêter de l'argent à un proche repose souvent sur la confiance et la parole donnée. Pourtant, il arrive que certains emprunteurs ne respectent pas leur engagement, créant ainsi des tensions au sein des relations. Pour mieux comprendre ces impacts sociaux, écoutons Abdoulaye Kone, sociologue.
Tu refuses de respecter ta parole donnée. Cela entrave automatiquement toutes les relations. Si la relation est entravée entre vous, donc soyez sûr que la vie devient dure. Les perspectives sont minimes dans votre relation.
Le plus grand piège, c'est de faire confiance sans formaliser l'accord. Même entre amis ou en famille, il faut une preuve écrite mentionnant le montant. Que dit la loi sur les prêts entre particuliers? Écoutons l'avis de Christelle Pauline. Elle est experte juridique.
Donc en droit, on parle de commencement de preuve par écrit ou de preuve indirecte. Donc cela inclut des messages, que ce soit des messages SMS, des emails ou même des conversations WhatsApp. Aussi des témoignages de personnes ayant assisté à l'accord. Cela protège vraiment le prêteur en cas de litige.
Prêter de l'argent, c'est bien, mais se protéger, c'est encore mieux. Sans preuve, il est très difficile de récupérer son argent, même par voie légale.
C'est tout pour cette édition. Faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56. À Sidio Tamani, nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Tout de suite, vous pouvez suivre votre émission Le Grand Dialogue avec Mariam Maïga. Mariam, bonsoir et avant-goût du débat de ce soir.
Vers une réduction des partis politiques au Mali. Idrissa Sako, c'est le thème de notre émission de débat Le Grand Dialogue. Pour en parler, nous avons trois invités. Boulan Barrow du parti SNID, Dr Mamadou Diadié Tambéli du parti RPM, Mariam Keïta, présidente Vision Femmes Mali.
Bon débat et maintenant place au magazine Tous les enfants du Mali. Et oui, l'année scolaire 2024-2025 se déroule normalement. C'est bientôt les examens de fin d'année et les élèves et enseignants se préparent pour la réussite de leur année scolaire. Pour offrir un soutien adéquat à ces futurs candidats, les pédagogues pensent que chaque acteur scolaire a sa part de responsabilité. Ils estiment que les enseignants doivent veiller à exécuter le programme correctement. Et du côté des parents, ils doivent veiller à ce que les enfants s'amusent moins, surtout ceux qui sont dans les classes d'examen. Comment donc soutenir la réussite scolaire de son enfant, Ousmane Nialibouli, plus de détails avec lui dans ce magazine Tous les enfants du Mali.
Traiter des anciens sujets, faire des exercices individuels ou collectifs et suivre les consignes des enseignants sont entre autres les méthodes adoptées par ces élèves rencontrés à Bamako. Ils préparent pendant cette période les différentes évaluations. Pour certains candidats, pour réussir aux examens de fin d'année, il faut bien se préparer.
On est en train de préparer parce que l'examen est plus proche. Même maintenant, on a sorti pour faire les exercices.
Nous sommes en train de bosser. Nous avons doublé nos efforts, triplé même nos efforts.
Oui, on prépare avec quoi? On recherche les anciens sujets. Et on traite ça, c'est à fonction de ça qu'on prépare les examens et les trimestres.
Pour moi quand même, je prépare les examens et les compositions en apprenant mes leçons et faire beaucoup d'exercices à la maison.
Les examens se préparent dès le premier jour de la rentrée scolaire. C'est ce qu'estiment certains parents d'élèves. Pour ceux de Yelimani, Yamfolila et Tomina, il faut donc un suivi régulier du niveau de l'enfant durant toute l'année.
Toi, en tant que parent, tu vas suivre les enfants dans les activités de l'éducation. Par exemple, de les suivre dans les exercices. Apprendre leurs leçons pour qu'ils soient actifs dans leurs différents examens.
Regardez avec votre enfant son agenda. De varier les techniques d'études, c'est-à-dire carton, questions, réponses. Assurez-vous aussi qu'il dorme bien.
Je fais de mon mieux pour encadrer mon enfant sans lui mettre trop de pression. Ensuite, je le confie à un enseignant afin qu'il l'aide à mieux préparer l'examen.
Pour des responsables scolaires, la meilleure manière de préparer les élèves pour la réussite de l'année scolaire et d'exécuter le programme en conformité. Cela permettra, selon eux, d'aller en examen sans avoir vu certaines leçons. Il indique aussi qu'il faut encourager les candidats à travailler dur pour réussir aux différentes évaluations. Issa Daou est responsable d'un établissement privé à Hippodrome en commune 1 du district de Bamako.
Pour les évaluations, c'est-à-dire des compositions trimestres d'examen de fin d'année, on encourage les enfants à travailler plus et à apprendre ces leçons, à faire des exercices, car on ne peut pas préparer un examen sans vraiment serrer la ceinture.
Les pédagogues abondent aussi dans le même sens. Pour ces deux lois, les élèves doivent réviser leurs leçons régulièrement à travers des exercices et des devoirs à domicile.
La première chose qui est assez importante, c'est de veiller à la bonne exécution des programmes d'enseignement. Les anciens doivent veiller aussi à tester de temps en temps le niveau de compréhension des enfants, c'est-à-dire faire des exercices régulièrement, tester le niveau de compréhension de l'enfant à chaque étape. Avant de commencer une nouvelle étape, veiller à ce que l'enfant comprenne ce qui a été fait à travers des questions et réponses, à travers des exercices sur table, à travers des devoirs à domicile.
Les pédagogues, ces deux lois, encouragent les parents à veiller à ce que les enfants soient concentrés à la maison. Il donne des consignes qui peuvent aider les candidats.
Que les devoirs à domicile soient faits, que les enfants lisent régulièrement à la maison, moins de télé, moins de tablettes, beaucoup plus de livres, beaucoup plus d'apprentissage des leçons, d'exercices à la maison, faire en sorte que l'enfant puisse se mettre à jour régulièrement pour que au moment des évaluations, qu'il ne soit pas en retard sur des programmes.
En conclusion, on peut dire que la réussite des enfants dépend de tous les acteurs, notamment des élèves, des parents d'élèves, des enseignants et des responsables scolaires. Chacun doit jouer son rôle avec responsabilité.